La voix d'en haut. Hommage à Alfred Deller, contre-ténor pionnier, poète incomparable, qui disparaissait il y a 30 ans. Première partie.
I've been, in a sense, driven by this conviction since I was very young.
Depuis ma plus tendre enfance, j'ai été, en un certain sens, conduit par une conviction.
Come what may,
une conviction intime, selon laquelle, quoi qu'il arrive, c'était le chemin à suivre. Le seul chemin par lequel je pourrais m'exprimer musicalement. Et vous savez, d'une certaine façon, je me sentais obligé de faire ça.
Thank you.
Eternal source of light divine, source éternelle de lumière divine. Par ces mots, Handel fêtait sa reine, la reine Anne, il y a quelques siècles. Et par ces mots, nous fêterons Alfred Deller, qui les chantait il y a une quarantaine d'années. Ces mots qui ont, je crois, tout à fait valeur d'emblème pour son art singulier, son art unique. Son art qui sera donc l'objet d'un hommage divisé en deux émissions aujourd'hui et la semaine prochaine. Et là, j'ai trouvé assez peu de choses intéressantes, Alina, pour ce qui est des interviews d'Alfred Deller. Juste un extrait que nous écouterons tout à l'heure. Nous écouterons la semaine prochaine des masterclass. Là, il y a pas mal de matière. Et Dieu sait que c'est intéressant. Mais donc, pour ce qui est des interviews, pour l'entendre parler de sa carrière, de la découverte de sa voix à l'époque où c'était vraiment un terrain presque vierge, l'entendre parler de Purcell aussi, je me suis permis d'emprunter quelques extraits à l'interview qui avait été faite et au documentaire qui avait été réalisé pour la télévision française à la fin de sa vie, il y a donc 30 ans, puisque Deller nous quittait il y a 30 ans exactement. Deller, ce jour-là, était filmé chez lui, dans son cottage à Margate. Il y était né, il y était resté. On l'aperçoit à côté de sa femme Peggy. Il a un certain âge à l'époque. On vient interviewer tout de même une personne extrêmement célèbre, extrêmement importante dans le monde de la musique ancienne. Il a un certain âge et il parle toujours avec un enthousiasme d'adolescent, avec une distinction extrêmement britannique, une précision adorable dans la diction. Mais cet enthousiasme, cette lumière dans la voix, cette façon de charmer en allégeant, et avec, c'est très beau dans le documentaire, ce regard très très brillant, c'est vraiment un adolescent qui était resté dans ce cœur d'homme, un adolescent tranquille, un adolescent qui ne manquait pas d'humour.
Was a tailor had a mouse, hi diddle and cum fiddle, they lived together in one house, hi diddle and cum fiddle, hi diddle and cum tarum tum tum through the town of Ramsey, hi diddle and cum over the lea, hi diddle and cum fiddle. The tailor thought the mouse was ill, hi diddle and cum fiddle, he gave him part of a blue pill, hi diddle and cum fiddle, hi diddle and cum tarum tum tum through the town of Ramsey, hi diddle and cum over the lea. The tailor thought his mouse would die, hi diddle and cum fiddle, he baked him in an apple pie, hi diddle and cum fiddle, hi diddle and cum tarum tum tum through the town of Ramsey, hi diddle and cum over the lea, hi diddle and cum fiddle. The pie was cut, the mouse ran out, hi diddle and cum fiddle, the tailor followed him all about, hi diddle and cum fiddle, hi diddle and cum tarum tum tum through the town of Ramsey, hi diddle and cum over the lea, hi diddle and cum fiddle. The tailor found his mouse was dead, hi diddle and cum fiddle. So he bought another one in his stead, hi diddle and cum fiddle, hi diddle and cum tarum tum tum through the town of Ramsey, hi diddle and cum over the lea.
Vertu suprême d'un chanteur, l'humour, l'esprit, l'intelligence qui pétille mais qui ne démontre rien, le cerveau qui séduit. Et Deller avait bien cela comme personne. Il a fait école, bien sûr, il a ouvert la voie, il a fondé quelque chose, et un quelque chose tout à fait déterminant dans le renouveau de l'interprétation de la musique ancienne. C'était il y a un demi-siècle, les choses se mettaient en place, chacun apportait sa pièce au puzzle, qui au clavecin, qui à l'orgue, qui au violon. Et donc Handel a suscité non seulement des vocations chez les contre-ténors qui ont suivi son exemple, mais aussi chez tout un lot de chanteurs qui ont été influencés par ce style, par cette façon de dire les mots, et aussi chez tout un lot d'instrumentistes qui ont trouvé un exemple d'éloquence, parmi eux un certain Gustav Leonhardt, qui dit volontiers que l'une des seules influences qu'il avait véritablement vécues, c'était celle de Deller, c'était celle de ce musicien qui lui a apporté beaucoup de choses justement sur la diction chantée, la diction instrumentale par là même, puisque l'instrument après tout n'est que le reflet de la voix sans parole. Et puis du côté des chanteurs qui ont été influencés, très souvent d'une part ils ont découvert la voix de contre-ténor grâce à lui, et très souvent ils sont allés étudier grâce à lui, parfois ici même dans la maison de la radio, il a donné donc tout un lot de masterclass en 78, parfois dans le sud de la France, et notamment un certain René Jacobs.
Son timbre est unique, ça on ne peut pas expliquer. C'est un timbre qu'on ne peut pas oublier. Et il y a maintenant beaucoup de contre-ténors, mais il y en a relativement peu dont on peut dire « Ah, c'est un timbre qui reste ». Sa technique était une technique dans laquelle tout le monde en Angleterre l'a suivi, et évidemment aussi une technique qui n'avait jamais disparu. Parce que ce qui avait disparu en Angleterre, c'est l'utilisation de la voix de countertenor comme soliste, mais dans les chœurs. Et l'Angleterre a une grande tradition de chœurs d'hommes. La voix de soprano était aussi au 19e siècle chantée par des garçons et la voix d'alto par des contre-ténors. Donc il y avait des contre-ténors au 19e siècle, mais évidemment avec l'idéal viril de la voix de ténor et tout ça, les gens ne voulaient pas entendre ça. Dell a dû lutter pour ça. Il a été confronté avec des gens qui ont commencé à rire dans la salle, etc. Donc ça, c'est la technique anglaise d'utiliser seulement le registre de falsetto.
Retour maintenant sur la jeunesse d'Alfred Deller. Il naît en 1912, donc à Margate, dans le Kent, près de la mer. Son père enseigne la gymnastique. Alfred, d'ailleurs, a une sacrée carrure. Il aura une véritable carrure d'athlète. Sa mère est infirmière. Et avant même de découvrir la voix de contre-ténor, il découvre son répertoire, il découvre la musique ancienne. C'est une grande porte qui s'ouvre. C'était pour moi un acte de Dieu. Je ne suis pas né dans une famille particulièrement musicienne. Nous étions 7 enfants, j'étais le plus jeune. Et je n'ai eu aucune éducation musicale étant enfant. Mais quand j'étais à l'école, je chantais dans la classe et là, j'ai découvert que j'avais une bonne voix naturellement. Très rapidement, j'ai compris qu'elle sonnait différemment des autres. Donc à 11 ans, je suis entré dans le chœur de la paroisse comme choriste. Très vite, je suis devenu soprano solo.
The choir master bought copies of a motet by Orlando Gibbons.
Et un jour, le chef du chœur nous a apporté la partition d'un motet d'Orlando Gibbons. Oh Lord, increase my faith. Seigneur, augmente ma foi. N'oubliez pas qu'à cette époque, je ne connaissais pas une note de musique Tudor. Si vous m'aviez parlé de musique sacrée de l'époque Tudor, je ne saurais pas ce que vous auriez dit. Pensez que jusqu'à cette époque, le répertoire qu'on avait chanté dans le chœur était assez mauvais, c'était de la musique victorienne. Et donc nous avons déchiffré ce motet de Gibbons. Et avant que nous arrivions à la fin, je peux maintenant seulement vous décrire le souvenir que j'ai de ce moment, tel que je l'ai vécu vraiment. Et donc, je peux vous l'écrire comme une fenêtre qui s'est ouverte dans le ciel. Et dès ce moment, même si ça semblait tout à fait impossible, je savais vraiment, au plus profond de moi, je savais dès ce moment que d'une façon ou d'une autre, ma vie entière serait inextricablement liée à la musique de cette époque.
Oh,
Comment on devient contre-ténor à la fin des années 20? J'ai continué de chanter en soprano, par exemple dans le Messie de Handel, jusqu'à l'âge de 16 ans. À ce moment-là, le chef de chœur était très intéressé parce qu'il n'avait jamais rencontré une voix de garçon qui reste aussi longtemps. Il m'a conseillé, j'en suis sûr pour de très bonnes raisons, de m'arrêter pour reposer ma voix. Bien sûr, j'ai suivi son conseil. Mais trois mois après avoir quitté le chœur, on m'a demandé à nouveau de chanter. Cette fois-ci dans un quatuor de voix d'hommes. Et je chantais la partie d'alto, la partie supérieure. Et donc j'ai chanté, j'ai fait ce concert. J'ai chanté de la seule façon que je connaissais.
And I continued to sing.
Et j'ai continué à chanter.
And at the final concert, the choir master came back to me and said.
Au dernier concert, le maître de chœur est venu me voir et il m'a dit, Alfred, je ne comprends pas, mais vous chantez toujours aussi bien. Le chœur a besoin de vous. Vous devez revenir et chanter alto.
I only knew at that time that as an alto, I must now sing.
À cette époque, je savais seulement qu'en tant qu'alto, je devais maintenant chanter la deuxième ligne en partant du haut. Je n'avais aucune éducation musicale. Il fallait que je trouve mon chemin tout seul. Et donc je savais seulement sur ce chemin que je devais chanter la deuxième ligne et je la chantais sans désemparer. Autrement dit, j'ai continué à chanter à travers la mue de ma voix. Je continuais simplement. Je continuais de produire ma voix comme avant. Et c'est important et c'est vrai, je vous assure. La façon dont je chante aujourd'hui est identique à ma technique d'enfant. Quand j'ai commencé à chanter à alto, bien sûr, j'ai chanté dans une tessiture plus basse, une tierce ou une quarte plus basse qu'avant. Maintenant, j'avais besoin de résonance pour nourrir la sonorité dans le médium et dans le grave. Et j'avais du mal, techniquement, ça me faisait des problèmes à trouver ces résonances autour du do du milieu et en dessous. C'était difficile. Personne ne pouvait m'apprendre ça. C'était vers 1926-1927. J'étais laissé à moi-même. Trouver et développer un système de résonance nasale et développer la voix pour aller depuis la voix de tête jusqu'à la poitrine et pour gagner du mordant dans le grave.
Both shall roam on.
ship there is, and she sails the sea. She's loaded deep, as deep can be, but not so deep as the
Wally Wally, l'un de ces chants traditionnels anglais dont Alfred Deller avait le secret et dont il avait aussi la mélancolie légère et l'art nécessaire de faire parler la voix ou de faire chanter les mots comme vous préférez, et tout cela avec un parfait naturel. Mais la voix elle-même était-elle naturelle ? Est-ce naturel qu'un homme chante ainsi ? La question a, semble-t-il, beaucoup intrigué ses contemporains.
I smile at the word natural because this is I'm often asked this question.
Je souris comme quand on parle de naturel. On pose souvent cette question et je dis toujours la même chose. Est-ce que j'ai l'air d'un homme naturel?
In that sense, of course, it is absolutely natural. But
et dans ce sens, naturellement, je crois que la voix est parfaitement naturelle. Plus sérieusement,
let me put it this way.
Laissez-moi dire ça de cette façon.
Male voice, whatever the singer,
chaque voix d'homme,
tenor,
que le chanteur soit ténor ou basse, un registre de tête.
What has been called falsetto.
C'est ce qu'on appelle le falsetto.
And the development of the contre-ténor.
Et développer la voix de contre-ténor. Consiste à employer cette voix de tête, cette voix du pharynx, et par l'entraînement, de l'étendre depuis le registre aigu jusqu'à ce qu'on appelle communément le registre de poitrine. Et fondamentalement, c'est la voix de tête appuyée sur le diaphragme avec un mélange du registre de poitrine.
But there's a great deal of has already been said by some great writers on.
Ceux qui ont écrit sur l'émission vocale ont dit beaucoup de bêtises à propos du falsetto,
particularly among
les ténors,
who think it rather beneath them,
qui trouvent que c'est plutôt indigne d'employer ce
falsetto,
ce qui est pourtant une partie essentielle de toutes les voix d'hommes.
You know, as I speak to you,
vous savez, quand je vous parle maintenant,
this is my voice, which will be, I suppose, a light
c'est avec une voix, j'imagine, de bariton
so
léger. Donc j'ai ce registre, oui. Puis je peux faire ça aussi. Bien sûr, ma voix fondamentale, c'est celle de bariton léger, mais je l'emploie très rarement, parce que si je la développais sérieusement, si je travaillais l'étendue du bariton avec la même concentration que je porte à ma voix d'alto, là, je perdrais très vite sa qualité dans le bas du registre.
Oh,
Importance dans la carrière d'Alfred Deller, ce duo de Henry Purcell, Sound the Trumpet. Deller le chante en direct le 29 septembre 1946 sur les ondes du Ford Programme de la BBC. C'est le soir de l'inauguration de cette radio consacrée au théâtre et à la musique. Événement donc et révélation de cette voix oubliée du contre-ténor, le choriste qui travaille désormais à la cathédrale de Canterbury, poste plus prestigieux tout de même que sa petite bourgade de Margate, le choriste qu'avait rencontré à Canterbury Michael Tippett en 1943. Ce soir-là de 46, il chante dans tous les foyers ou dans presque tous les foyers de l'Angleterre. Il a 34 ans déjà, il n'a rien enregistré encore au disque, il vit très modestement avec sa femme et c'est le début d'une formidable carrière, mais aussi d'un malentendu qui perdure toujours. Question de terminologie, Yvan Alexandre nous éclaire.
La technique en soi n'est pas si nouvelle, hein. C'est une technique d'émission entièrement au fossé. Ce n'est quand même pas lui qui a fondé cette technique-là, en particulier dans la variété, on s'en servait beaucoup, on s'en sert encore beaucoup d'ailleurs. Ce qu'il a inventé, enfin c'est pas de sa faute le pauvre, c'est l'incroyable malentendu, c'est-à-dire le nom qu'on lui donne. Jusqu'à un certain point avancé, hein, jusqu'à largement au-delà de ses 30 ans, il était alto, c'est-à-dire qu'il tenait les parties d'alto, il était male alto, alto masculin. Ça a toujours existé. Et bon, le malentendu lancé par le compositeur Michael Tippett, s'est tapé sur le front comme un inspecteur de police en entendant ça et en disant « Bon sang, mais c'est bien sûr, voilà le contre-ténor. » C'est ça qui a mis le feu aux poudres que nous subissons encore aujourd'hui. Parce que longtemps en France, on faisait une grande différence entre le contre-ténor, Alfred Deller, et la haute contre. Voix française, le ténor léger, on dirait aujourd'hui pour que ça parle un peu, je ne sais pas, ou Howard Crook ou Jean-Paul Fouché-Court. Voilà. Or, en réalité, ben non, pas du tout. Haute contre et contre-ténor veulent dire exactement la même chose. Ça a la même signification. Contre-ténor n'existe pas en France. C'est la traduction littérale de counter-ténor, l'équivalent français et haute contre. Par contre, la différence existe entre alto et contre-ténor ou haute contre. Donc, on est encore aujourd'hui obligé, parce que si on met alto, les gens vont penser qu'on parle de Kathleen Ferrier.
Mais oui, mais alors qu'est-ce qu'on dit pour parler bien,
alors,
Alexandre ?
On en est arrivé à utiliser des vocables par commodité, qui sont fous, mais ça arrive très souvent dans le langage. Hein. C'est par commodité, on dit contre-ténor, ça s'est imposé comme ça.
Never sung a vocal exercise in my life.
n'ai jamais fait d'exercice vocal toute ma vie. Ça peut sembler prétentieux, mais ce n'est pas ça. Comme je l'ai dit pendant des années, j'ai été laissé à moi-même pour établir ma technique. Alors, tout mon travail se fait pendant l'aria, pendant que je chante. Je chante, je ne vocalise pas. Si j'ai un problème technique, alors il se peut que je le travaille. Mais je n'ai jamais vu la nécessité, comme disent les autres chanteurs, de se chauffer par des roulades, par des vocalises. Je fais mes exercices en chantant. Je préfère m'exercer à travers ce que j'étudie. Je le dis à mes élèves, c'est important. Vous pouvez répéter ici dans votre tête. N'importe quand, quand vous attendez le bus, pensez à l'interprétation. Pensez à la façon de prendre une phrase. Car dès que la technique est contrôlée, la chose importante, c'est l'interprétation. Et ça se fait ici, dans la tête, quand vous pensez. Quand vous pensez telle phrase, telle désinence, telle syllabe, telle ponctuation, on peut penser à ça. Et je crois que c'est le plus important, beaucoup plus important que faire des vocalises. Alors oui, l'unisson final n'est pas tout à fait parfait, l'intonation fluctue par moments, mais quand même, quelle séduction, Alfred Deller, dans cette song de John Wilson qu'il enregistre pour His Master's Voice en 1954. Alors, sur quoi repose ce timbre qui fascine toujours à travers le temps, 30 ans après sa disparition? Sur quoi repose cet allègement, cet aigu, cette aisance, cette technique? Quelle serait sa base? Yvan Alexandre.
C'est la technique que tous les traités de chant du XVIIe et XVIIIe siècle recommandent, ce qu'on appelle le chant sur le souffle. C'est la base du bel canto. Et au lieu de chanter en appuyant sur le diaphragme, on chante sur le souffle, des sons presque filés. Alors évidemment, normalement, c'est un effet, alors que lui en fait une technique, un langage.
C'est lui et Caballé, dans ce cas-là.
Voilà,
c'est
ça.
Cas extrême.
Ouais. Deller serait une espèce de constante Caballé, parce que quand même, Caballé le fait aussi comme élément de vocabulaire. Alors, dont elle abuse, on pourrait dire, enfin, il y en a qui le lui reprochent. Mais Deller, lui, ce n'est pas un élément de vocabulaire, c'est sa syntaxe, vocale en tout cas. C'est-à-dire qu'il place la voix de manière à ce que le chant sur le souffle l'emporte. Mais le plus étonnant dans son cas, c'est que les imitateurs de Deller aussitôt après lui, qui ont essayé d'avoir ce que j'appelle le sens sinusoïdal, ce qui est un peu stupide, mais je ne sais pas comment le qualifier pour donner une image, qui chante plutôt par les sinus, où les résonateurs sinusoïdaux sont mis tellement en valeur, alors très souvent, ça a comme conséquence immédiate que vous perdez votre grave. Et ce n'est pas son cas. Pour des raisons assez étonnantes, alors qu'ils tiennent à sa constitution, à sa morphologie, à sa technique, à sa préparation, il se trouve que chez lui, le passage ne le faisait pas décrocher, jusqu'à très grave, et il arrive à faire résonner des sons dans les sinus sans que ça prenne un aspect canard, jusqu'au vrai registre de contralto. Alors ça, c'est très, très étonnant.
Mais qu'est-ce qui lui a permis de garder cette projection sans avoir une voix dure nasalisée?
Oui, justement, ça, je ne sais pas. C'est nasalisé, enfin, c'est sinusoïdal. C'est-à-dire qu'il a réussi. Mais ça, il y a beaucoup de chanteurs. Si vous écoutez, je sais pas, si vous écoutez Zelma Kurz, si vous écoutez les sopranos, par exemple, du début du siècle, et même quelques sopranos wagnériennes, qui utilisent ce type de résonateur, moins chez les garçons, hein, mais chez les filles, vous entendez exactement le même effet. C'est-à-dire vous entendez bien que ce sont les résonateurs sinusoïdaux qui viennent largement au secours des résonateurs de gorge ou de poitrine ou de tête. Et vous entendez aussi que ce ne sont pas des voix de canard, que ça ne grince pas. Ça, c'est une manière de développer, de faire participer beaucoup les résonateurs de tête. Il s'agit d'unir à l'intérieur d'un certain type d'émission voix de tête, voix nasale et quand même voix de poitrine, enfin qui vient au secours de l'émission en général. C'est très technique dit comme ça, mais c'est très spécifique quand même à sa technique à lui.
See what babies only have. ce claveciniste qui improvisait un continuo curieusement bavard, un peu désuet aujourd'hui, c'était en mai 1954, un certain Gustav Leonhardt. Et au violon, vous entendiez Alice Arnoncourt, Marc Leonhardt, Alice Arnoncourt qu'on avait baptisée Alice Hoffelner sur l'album. Il ne fallait pas qu'on voit trop de noms de couple, ça n'avait pas l'air trop sérieux cette affaire de musique baroque. Et c'était donc Nikolaos Arnoncourt qui était au violoncelle. Au violon, on trouvait également Edouard Melkous et puis je ne sais plus trop qui. En tout cas, c'était donc une équipe de pionniers réunis à Vienne en 54 autour de cette voix qui sera un guide dans leur expérimentation des instruments anciens. Vous avez entendu qu'à l'époque, on n'hésite pas à vibrer sans trop de pudeur. On ne joue pas très juste encore, mais voilà, ils sont sur le chemin et sur ce chemin-là souffle parfois l'esprit. Ils enregistrent 3 disques coup sur coup en mai 54. Un disque tout Bach avec le fameux Agnus Dei de la messe en si, dont Gustav Leonhardt aime dire qu'ils étaient tous atroces et que lui, Deller bien sûr, était sublime. Ils enregistrent également un récital de musique anglaise et un album Henry Purcell, compositeur chéri d'Alfred Deller.
Purcell is a great master of the setting of language.
Purcell est un grand maître de la mise en musique du langage. Je ne connais aucun autre compositeur qui travaille le texte si merveilleusement, avec une telle intelligence, qui aille ainsi dans le cœur du langage, dans les profondeurs du sens. Un vieil ami m'a dit qu'il y avait un seul compositeur comparable à Purcell de ce point de vue, c'est Schubert. Et en ce qui concerne Purcell, mon attirance pour sa musique vient du fait que j'ai toujours aimé la poésie. Les mots, leur sens, leur couleur. Et avec Purcell, vous ne trouverez jamais un seul faux accent sur un mot. Jamais. Il suit le rythme du langage. Le contenu poétique à un degré fantastique. Je pense que c'est très dur pour les chanteurs. Parce qu'à mon avis, la seule façon de chanter les grands airs de Purcell, c'est de le faire à travers les mots. Il faut saisir, se pencher et saisir les mots, avoir une vision imaginative des mots. Et avec cette vision des mots, il faut garder le contrôle du rythme musical. Toujours tenir le rythme du chant, mais à l'intérieur du rythme de base, jouer des possibilités de faire monter et descendre les nuances du langage. C'est fantastique chez Purcell. Bien sûr, la réussite ou le succès de cela dépend à la fin du sens artistique de chaque chanteur. C'est tout ce que je peux dire. C'est convaincant pour l'auditeur ou ça ne l'est pas. Et je pense que c'est ça, la compréhension difficile, le contrôle intellectuel du rythme de base, qui part de la toute première note et nous conduit à la toute dernière. Et à l'intérieur de ce rythme, on joue avec toutes les possibilités, avec les subtilités infinies de ce rythme, mais à une condition, à condition qu'elle soit reliée au rythme de base. Sinon, la discipline est absente. Tout s'évanouit et la musique ne passe plus, elle ne communique plus. Thank you. La semaine prochaine, pour nourrir cet hommage à Alfred Deller, vous entendrez donc des masterclass qu'il avait données ici même à Radio France en 1978. Vous entendrez également les témoignages de trois contre-ténors. Nous retrouverons René Jacobs. Nous donnerons la parole également à Andrea Scholl et à Dominique Wyss. Dominique Wyss ayant été véritablement un élève d'Alfred Deller, aussi différente soit leur voix. Et puis, la semaine prochaine, nous entendrons d'autres pans de son répertoire, notamment la terrible mélancolie de John Dowland que nous avons laissé de côté aujourd'hui pour laisser place notamment à Henry Purcell et puis à ses ballades anglaises qu'il réussissait comme personne, je crois. Donc nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la deuxième moitié de cet hommage. Et bonne nouvelle, le label Vanguard a édité en quelques coffrets, en 6 coffrets de 4, 5, 6 CD, l'intégralité des enregistrements qu'il avait réalisés pour lui, c'est-à-dire entre environ 1954 et 1968-69. Époque à laquelle il enregistre énormément, c'est le boom du micro-sillon, on produit, certaines années le voient enregistrer une dizaine de disques, époque à laquelle également sa voix est en pleine forme. L'un des coffrets est en pleine forme, et pardon, c'est affreusement mal dit, époque à laquelle la voix est à son zénith, puisqu'il s'agit vraiment de parler de lumière, ici comme dans l'Ode à la Reine Anne. Et donc l'un des coffrets est tout à fait d'actualité, c'est un coffret de Christmas Carols et de Motet, qu'il enregistre en collaboration avec son Deller Consort, bien sûr. Je vous propose d'en goûter 3 joyaux en préfiguration des fêtes qui s'avancent déjà vite.
Thus the man of olden days loved the king of kings to praise when they hear the fife and drum. Tooraloo, pata-pata-pan. When they hear the fife and drum, sure the children won't be dumb.
God and man are now become more at one than fife and drum. When you hear the fife and drum,